J'arrive à temps pour écouter l'agité du local et tu vas être content, j'ai désherbé toute la plate-bande.
Tu veux dire là où mes petits pois commençaient à lever ?
Oups !
On se plonge dans une histoire qui résonne profondément avec les enjeux de notre époque. Imaginez une jeunesse en quête d'identité, de liberté et de reconnaissance dans un pays marqué par des luttes. Ça vous fait forcément écho, mais aujourd'hui on revient en 2007 et la jeunesse dont on parlera, c'est de la jeunesse kosovare, une jeunesse souvent oubliée mais qui se racontera bientôt au cinéma. Bienvenue dans cette agité du local et si je vous parle de ça, c'est parce que mon invité d'aujourd'hui est Paul Frère. Il est le monteur du film Notre Monde aux côtés de Julie Renaud, un film réalisé par Luana Bajrami. Bonjour Paul, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci de m'inviter.
Dans quelques instants, on parlera ensemble du film en lui-même, de ce qu'il nous raconte, mais bien évidemment aussi de sa construction après tournage, puisque ça a réellement été sur cette partie-là que toi, tu as travaillé, sur la partie du montage. Je vous ai présenté notre invité, mais en studio aujourd'hui avec moi, il y a bien sûr Lucie. Bonjour Lucie, comment ça va ?
Bonjour Margot, bonjour à tous. Ça va très bien et toi ?
Ça va super. Juste après lecture en bref et la météo, toi tu nous emmèneras à la Roche-Neuville dans la coutellerie du Maine-en-Joux, un endroit où l'on fabrique et où l'on restaure de manière artisanale des couteaux ici en Mayenne. Et donc on a hâte d'entrer dans cet atelier avec toi parce que, grâce à ce reportage, parce que finalement ce que tu nous proposes aujourd'hui, moi je n'y connais rien du tout. Et donc il faut rester avec nous jusqu'au bout parce qu'on est bien tous ensemble, mais surtout puisque notre chroniqueuse Soazic arrive en fin d'émission avec sa chronique Un autre écho de l'écho. Et aujourd'hui, m'a-t-on dit, elle nous parlera de l'impact des écrans sur la jeunesse. Voilà, vous avez le programme du jour, il est franchement bien et je vous propose de commencer dès maintenant avec toi Paul. Donc je le disais tout à l'heure, tu es le monteur du film Notre Monde réalisé par Luana Bajrami. Tu as monté ce film aux côtés de Julie Renaud et donc je suis très contente de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui puisque le film sera projeté en projection spéciale au cinéma L'Avant-Scène le mardi 4 juin à 20h15. La projection se fera en présence de Luana Bajrami, de Julie Renaud et tu seras également présent, c'est bien ça ?
Oui, complètement.
Alors peut-être que pour commencer, avant de parler du film, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer le montage d'un film ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde.
Ouais, c'est vrai que c'est un poste qui n'est pas forcément super connu, mais c'est un poste très important dans la fabrication d'un film parce que c'est le poste qui arrive juste après le tournage, donc la captation des images par le réalisateur et toute l'équipe du film. Et donc le monteur, il réceptionne en gros toutes ces images-là et tous les sons qui ont été fabriqués pendant le tournage. Et en se basant sur les scénarios qui a été écrit, bah, il va commencer à construire très concrètement l'histoire que le ou la réalisatrice voulait créer. Et en fait, c'est pas si évident que ça, puisque la réalité d'un tournage, la réalité du passage devant une caméra, ça change complètement la réalité d'un scénario. Et donc le travail du monteur, c'est d'essayer de faire que la volonté initiale du réalisateur qu'il avait mise sur le papier soit la plus fidèlement retranscrite sous la forme d'un film avec des images et des sons.
Et alors, je le disais tout à l'heure, le film nous ramène en 2007 au Kosovo, à la veille de son indépendance, après 9 ans sous le protectorat des Nations Unies. C'est donc un pays qui n'a pas son propre gouvernement depuis 9 ans. Qu'est-ce que nous raconte ce film-là, donc le film Notre Monde ?
Alors, c'est vrai que c'est un film qui s'inscrit dans ce contexte historique-là, qui est très chargé, très compliqué aussi à appréhender, surtout pour nous, Français. En gros, c'est pas un film qui va parler de ce contexte-là à proprement parler. C'est un film qui va suivre deux jeunes filles, donc qui s'appellent Zoé et Volta, qui, elles, ont grandi vraiment dans l'arrière-pays du Kosovo, dans un petit village, vraiment dans la petite campagne du Kosovo. Et en fait, elles ont un rêve, elles sont un peu bercées d'illusions et elles sont convaincues qu'en montant à la capitale, en montant à Pristina, elles vont pouvoir un peu se réaliser et construire leur vie librement, en toute indépendance. Et puis, vont très très vite se rendre compte que tout ça, c'est que des illusions et que le pays, il est dans un état très compliqué, lié à la politique, lié à l'histoire, lié à l'économie. Et en fait, tout ça, c'est la toile de fond. Mais on suit vraiment d'abord ces deux jeunes filles qui essayent tant bien que mal de suivre leur rêve.
Et finalement, on peut voir à travers ces deux personnages, c'est comme le portrait d'une jeunesse et de la jeunesse de l'époque.
Oui, complètement. Pour le coup, Luana a pas vécu directement cette histoire-là, mais elle est franco-kosovare. Du coup, ça veut dire qu'elle a vécu vraiment une partie de sa jeunesse dans ce pays-là, et elle connaît pour le coup très très bien ces réalités-là qui sont pour une partie encore d'actualité. Et donc, elle a vraiment mis un point d'honneur à ce que ce soit très fidèlement retranscrit dans son récit. On suit vraiment cette réalité-là avec ces deux personnages-là.
Je crois même que son idée de raconter cette histoire est venue à partir d'images d'archives familiales où elle s'est replongée dans ces années-là en voyant des gens de sa famille qui étaient au Kosovo, je crois, à ce moment-là. Et puis c'est ça qui lui a donné envie de raconter et de parler de cette jeunesse à l'époque.
Complètement, ouais. C'est ça, le déclic, ça s'est passé pendant le confinement. Elle s'est replongée dans toutes les archives familiales et elle a revu des visages qu'elle connaissait, mais forcément des décennies en arrière. Et ça a commencé à lui donner l'idée de ce film. Et d'ailleurs, il y a plusieurs clins d'œil à ces archives-là dans le film. D'abord par l'ouverture du film, l'introduction qui est entièrement constituée d'images d'archives, dont une grande partie de ces images d'archives familiales. Et aussi dans le corps du film, où on rappelle un peu l'esthétique de l'image d'archives prise avec les petites caméras de l'époque.
On disait tout à l'heure, on suit finalement les deux personnages de Zoé et Volta. Est-ce qu'on peut presque parler de double récit initiatique finalement ? Parce que les deux jeunes femmes se révèlent à elles-mêmes et se révèlent l'une à l'autre dans tout ce contexte de vie, leur vie personnelle, mais aussi celui du pays.
C'est exactement ça. En réalité, du coup, Zoé et Volta, elles sont cousines, mais elles sont très proches. Et dans leur comportement, on peut presque les associer à des sœurs. Donc elles sont très très proches toutes les deux pendant une grande partie du film, et en fait toute l'intrigue du film et tout l'intérêt aussi du film, c'est de voir que c'est deux trajectoires, même si elles sont toutes les deux issues du même village, même si elles sont proches en âge, même si elles sont très proches aussi entre elles, elles vont dévier ces trajectoires, et donc en effet ça amène à un double récit initiatique qui est assez intéressant à observer.
J'ai envie de te proposer qu'on parle maintenant un peu plus précisément du montage. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque le montage commence, toi tu n'as pas assisté au tournage, tu connais quand même sans doute l'histoire un peu que la réalisatrice veut raconter. Quel était toi ton premier ressenti face aux images que tu as reçues ?
Pour le coup, le ressenti, il a été très très positif. Déjà, il y a eu deux choses qui ne sont pas toujours, qui n'étaient pas évidentes sur le papier, c'est que avec Julie, c'était la première fois qu'on montait un film de fiction. Donc, on n'avait pas une habitude de cette nature-là d'image de tournage de fiction. Nous, on est beaucoup plus habitués aux documentaires, donc avec des images qui sont beaucoup plus brutes. Donc, déjà, c'est vrai que pour nous, c'était un grand plaisir de découvrir ces images-là, qui se trouvent être en plus de très belles. Il y a une très belle direction artistique sur l'image. C'est un jeune chef opérateur qui s'appelle Hugo Paturel, qui l'avait suivi aussi sur son premier film et qui l'a suivi sur ce deuxième film, et qui a vraiment réalisé quelque chose, une image qui est à la fois très sobre, très délicate et en même temps qui est très réfléchie, très bien pensée. Donc le premier sentiment qu'on a eu en voyant les images, c'est vraiment de se dire qu'il y avait une réflexion en amont et que c'était pas un film fait à la va-vite.
Parfois, on parle de réécriture lors du montage. Enfin, c'est toujours plus ou moins le cas. Est-ce qu'il y a eu des basculements assez importants par rapport à la toute première écriture du film, de ce qu'elle avait projeté d'en faire, Luana Bajrami ?
Je crois qu'on a quand même été le plus fidèle possible à ce qu'apportait au scénario. Maintenant, c'est sûr que l'épreuve du tournage et l'épreuve des images fait que on a dû changer pas mal de choses. Et donc oui, il y a eu quand même des changements assez importants, notamment de relations entre les personnages qui ont été complètement modifiées, de structures aussi narratives qui ont été aussi complètement modifiées. Donc oui, ça pour le coup. C'est sûr que quand on lit le scénario tel qu'il avait été écrit avant le tournage et qu'on voit le montage, il y a quand même une petite différence entre les deux.
Et ce qui est intéressant, c'est que Luana Bajrami, la réalisatrice, elle est elle-même plutôt passionnée par cette étape de création, le montage. Elle avait déjà une idée très précise de ce qu'elle voulait dès l'écriture.
Ouais, Complètement. Pour le coup, bon, de toute façon, l'Ouana, c'est, faut quand même le dire, c'est une, elle est très très jeune, elle a 23 ans et c'est déjà son deuxième film. Le premier film, il avait été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs, alors qu'elle l'avait réalisé entre ses 18 et ses 20 ans. Et donc là, ce deuxième film, il est, elle avait 22, 23 ans en le faisant. Donc elle a une espèce de maturité comme ça qui est très très impressionnante. Oui, elle adore le montage, elle a une vision très précise du montage et du coup ça fait que c'était passionnant de travailler avec elle, mais elle a un peu une vision comme ça très très précise de tous les de tout ce qui fait un film, notamment du jeu d'acteur parce que c'est elle-même une actrice, donc elle est très très précise sur tous les aspects d'un film.
Le film, il parle d'une jeunesse révoltée. Je crois qu'elle utilise beaucoup le gros plan. Elle va chercher le détail dans l'expression du visage de ses comédiens. Est-ce que pour toi, au moment du montage, il y a des spécificités par rapport à ce choix de réalisation-là ?
Oui, bah pour le coup, c'est sûr que c'est ça peut être un peu à double tranchant, mais en réalité, c'est quand même un vrai avantage. C'est que, comme je disais, du coup, elle est aussi actrice. Elle a eu un très beau parcours et elle a un très beau parcours de comédienne. Elle avait notamment été nommée aux Révélations féminines des Césars pour La Jeune Fille en Feu, pour Portrait de la Jeune Fille en Feu. Et du coup, elle a une attention très très particulière au jeu et à ses actrices. Et il se trouve que Zoé et Volta sont vraiment deux actrices assez remarquables. Et donc oui, ces gros plans viennent vraiment valoriser leur jeu, leur délicatesse aussi d'expression. Et pour nous, au montage, forcément, ça fait gagner énormément en intensité à chaque fois. Maintenant, justement, une grosse partie du montage, parfois, ça a été presque de modérer parfois cette intensité-là. Parce que trop d'intensité cumulée, ça fait quelque chose qui peut être parfois un peu indigeste. Mais ça n'a pas été une difficulté majeure, au contraire.
Oui, voilà, finalement, toi, ton travail, c'est de jouer justement sur le rythme, sur le ressenti en fait, du spectateur pour que l'histoire se reçoive et se raconte au mieux.
Complètement. En gros, moi, j'ai l'impression, après, on est très jeune encore dans ce travail-là, surtout en fiction avec Julie, mais j'ai l'impression quand même que le rôle du monteur, c'est de faire en sorte de faciliter en fait, le travail pour le réalisateur, pour transmettre l'histoire qu'il avait en tête de la manière la plus fluide possible vers le spectateur. On est un facilitateur en gros, et à mon avis, un bon montage reste quand même un montage qui ne se voit pas. On ne doit pas se dire waouh, qu'est-ce qu'ils ont dû bosser au montage pour que ça sorte, quoi. Ça, à mon avis, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'assez invisible, mais pour donner une impression naturelle de fluidité dans le récit.
Elle est pour terminer la première mondiale du film. Elle a eu lieu à la Mostra de Venise l'été dernier. Alors, quelle a été la réception du film ?
Ah ouais, pour le coup, ça a été une vraie chance, parce que c'est vrai qu'après son premier film qui avait été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs de Cannes, d'avoir ce deuxième film qui est sélectionné à la Mostra de Venise, c'était vraiment un super cadeau. Donc déjà, on était tous très très heureux de ça. Et en plus, la réception a été bonne. C'était dans la sélection Horizontal, donc qui est l'équivalent d'Un Certain Regard à Cannes. Donc c'est plutôt les films du monde, les films qui viennent donner, qui viennent mettre la lumière sur quelque chose qu'on connaît moins, des endroits qu'on connaît moins. Et donc la réception du film a été bonne, et en plus c'était assez chouette parce que je crois qu'il y a eu le Premier ministre du Kosovo qui est venu, il y a eu vraiment toute la diaspora kosovare s'est vraiment un peu emparée aussi du film, et ça faisait plaisir à voir.
Eh bien, du coup, on peut venir découvrir le film le 4 juin à l'Avant-Scène, au cinéma L'Avant-Scène à Laval. La séance est à 20h15 et donc il y aura un temps sans doute d'échange avec Louana Bajrami, la réalisatrice, et puis toi et Julie, finalement, vous serez aussi présents pour parler de ce film.
Complètement, ouais, venez, et n'hésitez pas à venir poser vos questions aussi après le film.
De l'importance de découvrir des films comme celui-ci, qui finalement font vraiment écho à ce qui se passe aujourd'hui à d'autres endroits dans le monde, c'est très important.
Complètement. N'hésitez pas.
Merci Paul, merci d'avoir été avec nous. Avant de poursuivre l'émission, on va continuer ensemble avec un peu de musique. S'il y a une artiste à ne pas manquer aux Trois Éléphants cette année, j'ai envie de vous conseiller Eloi. Elle s'éloigne de l'étiquette fourre-tout de l'hyperpop pour inventer ses propres paradigmes aux confins de l'électro et du rock alternatif. On écoute son dernier single, Comme un animal, extrait de son dernier album, Dernier Orage.
pas si je fais tomber tous les ennemis. Oh mon joli joli combat, je survivrai jamais sans ma rage. T'as pas cherché, t'as pas compris, t'as pas aimé, t'es romantique, ça suffit pas, faut prendre des risques.
Et c'est parti pour notre coup d'œil sur l'actu en bref. Je ne vais pas vous faire un point sur le passage de la flamme en Mayenne, même si j'espère que vous en profitez ou que vous en avez profité. Ceci dit, je vais quand même vous parler sport et plus précisément de la performance de la Lavalloise Sunkamba Silla en 400 mètres, puisque dimanche dernier, elle a explosé son record et a bouclé pour la première fois de sa carrière un tour de piste en moins de 52 secondes, ce qui lui permet non seulement de s'inscrire dans le top 20 des performances françaises, mais aussi de se démarquer pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Rome du 7 au 12 juin et évidemment pour la saison olympique. Une très belle récompense après les efforts et sacrifices qu'elle évoque auprès de nos confrères du Ouest France. Mais la Lavalloise n'est pas la seule qui a de l'énergie à revendre et c'est sur le parking nord de l'hôpital de Laval que des ombrières photovoltaïques sont en cours d'installation. On vous en avait parlé déjà dans ces brèves, le chantier avait été annoncé il y a un an et il avance bien puisque deux des toits ont déjà été entièrement recouverts et ça devrait être prêt dès le mois de juillet 2024. A noter que les panneaux installés devraient fournir de quoi couvrir 5% des besoins électriques de l'hôpital, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 300 habitants environ. Avant de terminer, cette fois c'est au rat de bibliothèque parmi vous que je m'adresse. L'association Lecture en Tête recherche des lectrices et lecteurs pour constituer le jury de sa 14e édition du prix littéraire du deuxième roman en 2025. Ça se passera sous la présidence de l'écrivain Sorge Chalandon, avec une organisation en deux temps. En premier temps, un comité de sélection qui aura lieu de septembre à décembre avec des réunions trois fois par mois pour échanger sur les deuxièmes romans en lice. Et un jury final en décembre et janvier pour choisir un lauréat ou une lauréate. Bon, pas de panique, seul prérequis pour candidater en tant que jury, tenez-vous bien, il faut savoir lire et aimer ça. Et oui, je sais, on ne s'y attend pas. En tout cas, les candidatures sont à déposer avant le 30 juin à Lecture en Tête, 28 Grande Rue à Laval, ou par mail à programmation@lecture-en-tête.fr. Et pour finir, un petit rendez-vous, le Zoom de Laval a le plaisir de vous annoncer la tenue de
Cell Worlds, un ciné-expérience musicale qui relie imagerie scientifique microscopique et musique électronique. C'est dans le cadre du festival In Science porté par l'INSERM que le Zoom CCSTI de Laval a co-organisé l'événement. Et donc ce sera à l'espace culturel Le Reflet à Saint-Berthevin le 20 juin 2024 de 20h à 22h30 et c'est gratuit sur réservation. Côté météo, attention, là aussi vous allez être surpris, jeudi 30 mai demain, la journée devrait commencer avec des nuages et des températures assez fraîches à 13-14 degrés. Il y aura même quelques rares averses dans le nord-est du département, comme à Goron par exemple. Un peu de vent arrivera l'après-midi avec des rafales jusqu'à 55 km/h partout sur le territoire. Nico, il se dit que ça décoiffe un peu, certes, mais ça devrait aussi ramener le soleil, et il a raison, puisque les éclaircies pointent le bout de leur nez presque partout dans le département avec des timides 16-17 degrés. Alors j'ai bien dit presque tout le département, puisque des averses orageuses sont annoncées tout de même dans le nord-est du territoire, notamment vers Le Haut, et quelques pluies vont aussi persister à Cran. Demain soir, toujours jeudi 30 mai, l'ouest de la Mayenne devrait pouvoir profiter d'un peu de soleil avec quelques 14-15 degrés et les nuages seront toujours présents côté est. Nico, il se dit que ce serait sympa que le soleil réussisse à persister, histoire de faire mûrir ses fraises, parce que bon, il en a un peu marre des pommes, ça commencerait presque à l'énerver.
Merci Lucie, merci beaucoup pour cette météo. Après les actus et les pas très bonnes nouvelles justement de la météo, tu vas nous faire découvrir la coutellerie du Maine en... Oui, du Maine en Joux.
Exactement Margot, il faut savoir que la coutellerie fait partie de ces métiers et savoir-faire qui sont devenus assez rares en France. Et pourtant en Mayenne, nous avons la chance d'avoir un coutelier. Il s'appelle Antoine Faucheux et il a décidé d'installer son atelier sur notre territoire dans un cadre tout aussi particulier que charmant, à savoir la maison éclusière de Neuville. Et entre les curieux de passage et les clients, je m'y suis glissée avec mon micro pour découvrir tout ça. On écoute. Les chemins de halage le long de la Mayenne voient le retour des cyclistes, des pêcheurs et des promeneurs avec l'arrivée des beaux jours. Les maisons éclusières, qui ponctuent régulièrement les berges de notre rivière, participent au charme du cadre et l'une d'elles est particulièrement originale. C'est dans l'écluse de Neuville, à quelques kilomètres au nord de Château-Gontier, que s'est installée la coutellerie du Maine en Joux.
Antoine Faucheux, je suis coutelier à l'écluse de Neuville à Saint-Sulpice. Nous sommes 6 à travailler dans la coutellerie. On est 4 en production, une personne qui tient notre magasin boutique à Angers, qui est situé rue du Mail, et puis Laetitia qui est notre comptable et secrétaire. Alors la journée dans un atelier de coutellerie, en règle générale, elle est ponctuée par de multiples étapes. Parce que la fabrication d'un couteau, ça comporte, ça dépend le modèle de couteau, mais environ 34 étapes. Donc ça peut être à la fois du travail sur l'acier, du travail sur le bois. Enfin, ici, nous, on travaille que du bois pour les manches. C'est ponctué de, voilà, de plein d'étapes différentes, du perçage, de la découpe, du réglage, du polissage. Il y a plein d'étapes.
Dans un couteau, les deux éléments principaux auxquels on pense, c'est le manche et la lame. Naturellement, on peut donc se demander s'ils font de la forge.
Non, on ne fait pas de forge ici. On a deux façons de travailler. Soit on va utiliser des pièces qu'on fait découper à tiers par une entreprise qui est spécialisée dans les aciers de coutellerie. Soit on va faire du couteau sur mesure. Vous ramenez un dessin et je vais fabriquer le couteau que vous avez dessiné. Et là, on va travailler par enlèvement de matière. On va repartir d'une plaque d'acier et à partir de cette plaque, on va tailler un couteau selon les dessins. On va découper, on va faire ce qu'on appelle une émouture, c'est enlever de la matière de chaque côté de la lame pour faire un biseau. On va faire des traitements thermiques, après il y a encore de l'enlèvement de matière pour faire du polissage. On peut faire des décors, après il faut mettre le manche sur le couteau, enfin il y a plein de choses.
On va s'amuser à faire des gravures sur le métal.
Le traitement thermique en lui-même peut être associé à un seul métier. Historiquement, à tiers, c'était le métier de trempeur. Il faisait que de la trempe d'acier, que du traitement thermique. À tiers, il y avait aussi les mouleurs qui faisaient les moutures de la lame. En fait, chaque étape était associée à un corps de métier. Le couteau passait d'artisan en artisan, comme ça, jusqu'au vendeur de couteaux. Et effectivement, nous, on arrive à regrouper tous ces corps de métier pour faire de la pièce unique. Par contre, quand on fabrique des couteaux en petite série, on fait quand même appel à d'autres métiers pour pouvoir fabriquer nos couteaux.
En fait, le travail de l'acier, c'est extrêmement long. Et si on le fait, si on faisait tout en fait en pièce unique, clairement, le prix des couteaux serait juste exorbitant, quoi. Enfin,
Il existe des millions de types d'aciers différents. Je me suis procuré il n'y a pas très longtemps un livre qui s'appelle Stahlschlüssel. C'est un livre allemand qui répertorie en fait tous les types d'aciers qui existent. C'est un livre qui fait, je crois, 800 pages. C'est écrit comme sur un annuaire. Donc chaque acier va avoir un traitement thermique différent, va avoir une manière de se travailler différente et va avoir une utilisation donnée différente. Donc après, pour la coutellerie, il n'y en a pas des millions, mais il y en a quand même, il y a une certaine catégorie d'acier, et effectivement, ils ne se travaillent pas de la même manière.
Vu comme ça, ils se ressemblent tous un peu, hein, ils sont un peu gris, ils sont un peu... Mais leur composition est complètement différente. Là, voilà, là, vous avez par exemple, vous avez du damas, je ne sais pas si vous voyez les motifs. Et ça, c'est du bronze. On fait des pièces décoratives. Et ça, c'est ultra dur à travailler.
Ça représente beaucoup de savoir-faire pour le travail de la lame, mais il y a aussi le travail du bois du manche.
Oui, nous ici, on fabrique que des couteaux avec des manches en bois. On essaie de mettre l'accent principalement sur des bois qui viennent de la région. Donc nous, enfin, on travaille 70 essences de bois différentes. Ça peut être de la menuiserie, de l'ébénisterie, de la scierie même. Ça dépend d'où on part. Si on part d'une bûche de bois, bah oui, la bûche de bois, il faut la débiter, il faut la transformer en planchette. Enfin, ouais. On a un petit atelier de menuiserie. En fait, il faut imaginer dans une menuiserie beaucoup de grosses machines parce qu'ils vont travailler des grosses pièces pour faire des portes, des escaliers ou des meubles chez l'ébéniste. Et bah, nous, en fait, on a les mêmes machines, mais en plus petit.
Dans l'atelier, dans cette partie-là, vous avez des ponceuses à bande. Ça, c'est vraiment notre outil polyvalent qui va nous servir à travailler le bois, l'acier ou tout autre matériau. Ça va nous servir à façonner les manches, ça va nous servir à affûter de nos lames.
Dans le métier de coutelier, on comprend qu'il y a beaucoup d'assemblage. Le choix des matières de chaque pièce, de l'acier de la lame jusqu'au bois du manche, a donc son importance dans le processus.
Et bah, la matière de la lame, on va la choisir en fonction de la demande du client ou du modèle de couteau qu'on veut faire. On ne va pas utiliser le même acier pour faire une dague de chasse, par exemple, qu'un filet de sol, un couteau pour lever des filets. Ça ne va pas du tout être le même acier. Et effectivement, on va conseiller, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui jardine énormément et qui nous demande un couteau, bon, bah, on va lui conseiller tel ou tel bois. On va peut-être aller partir sur de l'acacia, sur du châtaignier, sur des bois voilà, qui résistent bien en extérieur. Et ça peut même aller encore plus loin. Des fois, on a des gens qui nous ramènent du bois qui vient de chez eux pour qu'on fasse leur propre couteau avec leur propre bois. J'ai en tête des gens qui nous ont donné des instruments de musique pour qu'on fasse des couteaux avec, ou des vieilles têtes de lit en merisier. On a vraiment envie d'offrir cette possibilité-là aux gens de personnaliser leur couteau, que ce soit sur les formes, que ce soit sur la décoration, mais ça peut être aussi, comme je vous le disais, sur l'essence de bois qui vient carrément de chez eux.
Là, je prends par exemple cette caisse-là, là on a du merisier. Et en fait, le merisier, c'est un stock d'un ancien menuisier à la retraite. Et donc là, il faut imaginer que ça, avant, c'était des planches qui faisaient justement 3-4 mètres de long. Donc après, ouais, à la scie, il faut que je les redécoupe. À la raboteuse pour que ça soit bien propre.
Et ce n'est pas tout, Antoine a aussi un couteau signature.
Et c'est un couteau que j'ai créé en 2012, quand j'étais apprenti à Thiers, pour un concours qu'on s'est fait entre apprentis à la fin du CAP. Il y a des formes dans le couteau en fait, qui sont liées directement au territoire. Il y a un méandre de la Mayenne qui s'est caché dans le couteau. Le couteau debout, c'est le pétale du haut de la fleur de lys. Et puis, un petit poisson qui s'est caché dans la forme du couteau. Voilà, faut s'amuser à le redécouvrir.
Thiers, c'est là où Antoine a fait sa formation, mais c'est surtout la capitale de la coutellerie française. D'ailleurs, il a beau avoir été très réputé, l'art de la coutellerie s'est grandement raréfié en France et il avait même disparu de la Mayenne.
La dernière coutellerie, le dernier fabricant de couteaux, c'était dans les années 60-70. Il y avait des vendeurs, mais même ça, même de la vente de couteaux, c'est devenu rare. Alors ça se redéveloppe, mais ça reste quand même très anecdotique. On parle de 150 et 180 entreprises de coutellerie réparties sur le territoire. Sachant que déjà à Thiers, il y a peut-être une centaine d'entreprises, donc sur le reste du territoire, voilà, ça laisse... C'est un désert, quoi. Un désert de couteliers.
Et vous écoutez toujours l'agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. Merci beaucoup Lucie pour ce très beau reportage. Tu nous as carrément emmené avec toi, c'était merveilleux.
C'était un plaisir d'y être aussi.
Alors c'est une chronique particulièrement appréciée, toujours en phase avec l'actualité, et c'est tout de suite un autre écho de l'écho. Soisig, vous revenez aujourd'hui sur le rapport demandé par Emmanuel Macron à une commission d'experts quant aux répercussions des écrans sur la santé physique et mentale de nos jeunes. Et c'est pas forcément joyeux.
En effet, Margot, les conclusions de ce rapport font plutôt froid dans le dos. Et ça commence fort, je cite la commission, qui dit, dans son introduction d'ailleurs, après 3 mois de travaux, la commission a acquis la conviction qu'elle devait assumer un discours de vérité pour décrire la réalité de l'hyperconnexion subie des enfants et des conséquences pour leur santé, leur développement, leur avenir, pour notre avenir aussi, celui de notre société, celui de notre civilisation et peut-être même celui de notre humanité. Rien que ça. Alors le rapport insiste d'abord sur le manque de sommeil engendré par une utilisation massive des écrans par les jeunes. Ainsi, les adolescents ne dorment plus en France que 7h45 en moyenne par nuit, au lieu des 8h30 à 9h de sommeil recommandés par l'OMS. Certains jeunes disent même rester éveillés ou programmer un réveil en pleine nuit pour échanger avec des amis, suivre une actualité sur un réseau social, regarder des vidéos ou jouer à des jeux vidéo. Alors cette carence de sommeil, bien sûr, induit une fatigue chronique et obère les processus physiologiques cruciaux sur les plans endocriniens, métaboliques et cognitifs, avec comme conséquence le surpoids, l'obésité, le diabète, les troubles de l'humeur, voire la dépression. Je vous avais prévenu. Alors bien sûr, si l'épidémie de surpoids et d'obésité ne saurait être imputable aux seuls écrans, leur utilisation excessive y contribue largement, que ce soit par une position statique prolongée ou par le cumul écran-grignotage de produits souvent peu recommandables diététiquement parlant. Mais ce tableau sombre ne s'arrête pas là. L'impact des écrans sur la vue est aussi problématique. Savez-vous qu'aujourd'hui dans le monde, on compte plus d'individus myopes que d'individus disposant d'une vision normale ? Là encore, les écrans ne sont pas les seuls facteurs, mais ils renforcent les effets liés, tenez-vous bien, à un horizon urbain moins dégagé que celui de la campagne, puisqu'on habite de plus en plus en ville, et un temps prolongé à l'intérieur des habitats, maisons, écoles, et aujourd'hui même les parcs de jeux indoor, pendant lesquels les yeux sont moins entraînés à la vision de loin et plus souvent exposés à la lumière artificielle. Autre problème, et qui n'est pas le moindre, le langage. Alors pour les plus petits, c'est au niveau de la lecture que les retards sont le plus significatifs, de l'écriture pour les 6-12 ans et de l'hyperactivité pour les 15-18 ans. Quant au déficit de l'attention, c'est pour tous.
Est-ce qu'on remarque un effet précis des réseaux sociaux, par exemple ?
Eh, malheureusement, oui. Surtout pour les jeunes utilisateurs, qui montrent de base des vulnérabilités psychiques. Alors certes, les réseaux sociaux permettent à des jeunes marginalisés, par exemple, de tisser un lien social numérique qu'ils n'auraient pas sinon. Mais quand on met cet effet bénéfique dans la balance avec les effets négatifs, eh ben, il n'y a pas photo selon la commission. Alors les symptômes, je vais vous les dire, ils sont tout d'abord la nomophobie. Qu'est-ce que la nomophobie ? Eh bien c'est la perspective effrayante pour un jeune d'être séparé de son téléphone, de ne pas être joignable ou d'être privé de connexion internet.
Eh oui.
Ce peut être également le syndrome du hikikomori, qui vit reclus dans sa chambre durant des mois, voire des années. Et enfin, la commission insiste sur l'altération de la santé mentale liée au contenu haineux dont sont victimes 48% des adolescents. Ou encore la vue de contenus violents ou pornographiques qui concernent 70% des 11-18 ans. Et également, je vais vous parler des sex-extorsions. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je ne le savais pas jusqu'à la lecture de ce rapport. Eh bien, c'est un chantage à la diffusion de photos compromettantes que les jeunes victimes ont offertes naïvement à leurs tortionnaires. Ils ne savaient pas que ça allait déboucher sur du chantage. Phénomène qui a été multiplié par 10 depuis l'année dernière. Et je pourrais continuer comme ça longtemps avec le cyberharcèlement, les menaces, etc. Bref, vous voyez qu'il n'y a pas trop de quoi se réjouir. Alors quoi faire ? Eh bien, en fait, c'est très compliqué. Parce qu'il faut préserver nos jeunes, mais en même temps ne pas atteindre aux libertés individuelles. Et encore une fois, eh bien, à part l'éducation, je ne vois pas d'autre solution. Comme l'État a éduqué sur la vitesse, sur la cigarette ou sur les gestes barrières durant la Covid en un temps record, il faut mettre des moyens colossaux en accompagnement d'une réelle volonté politique, comme l'interdiction par exemple des écrans dans tous les collèges et dans tous les lycées. Toutefois, réprimer ne va pas suffire. Il faut aussi, en contrepartie, faire redécouvrir à nos jeunes la joie des vraies rencontres, le bonheur des activités de plein air, les bienfaits des activités manuelles, sportives et artistiques. Bref, leur montrer qu'il existe autre chose que les écrans comme passe-temps et que ça peut être au moins aussi agréable que de scroller, je le rappelle, 140 mètres en moyenne par jour. Mais il faut faire vite, Margot, parce que comme disait La Fontaine, si tous n'en meurent pas, tous sont bel et bien atteints.
Merci beaucoup, Soizic, merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien pour accéder à ce rapport dont vous venez de nous parler, Soizic, sous le podcast de l'émission. Nous sommes arrivés à la fin de la JT. Merci à Paul Frère d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à notre chroniqueuse Soizic encore une fois. Et merci à toi, Lucie. C'était ton avant-dernière émission avec nous. On profite de ta présence jusqu'au bout.
Et oui, avec grand plaisir, je profite aussi.
Vous pouvez, vous vous demandez peut-être d'ailleurs pourquoi la JT se balade un peu dans la grille de programmation.
Alors, on ne se balade pas vraiment, Margot. Hein. C'est la même heure toute la semaine quand même.
Moi, je trouvais ça joli, moi, de le dire comme ça. Balade, ça évite le mot bordel. J'essaie d'amener un peu de la beauté, tu vois. Bon, si ça prend pas, mince quoi.
Bon, tu peux dire simplement que cette semaine, le direct de la JT est à 18h15, puisqu'on est en direct du village des Trois Éléphants, sauf aujourd'hui. Mais dès demain, on y retourne.
Oui, donc c'est un peu le bordel, quoi.
Enfin, on se balade, quoi.
Bref, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve demain à 18h15 sur le village des Trois Éléphants. D'ici là, souriez, dites un mot gentil à celui ou celle qui se trouve à côté de vous. Eh bien oui, s'il vous plaît, faites-le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini?
Quand elle dit au revoir, bah, c'est que c'est terminé.